Merci à la librairie Mola, au TNBA, à la revue aussi Horizon Théâtre, dont je suis le rédacteur en chef, qui est une revue que nous avons créée au département des études théâtrales, que nous avons créée l'année dernière. Donc voilà, qui organise des rencontres en partenariat avec le TNBA. Donc Philippe sera présenté ensuite par Marie Tramouta, parce qu'il faut qu'on... On n'a pas beaucoup de temps avec Laurent, c'est sa première, donc on peut comprendre qu'ils doivent nous quitter à 18h30. Oui, oui, mais quand même... quand même qu'on ait le temps de parler. Donc je vais le présenter rapidement. Il a fait tellement de choses qu'il faudrait la demi-heure pour le présenter. Donc voilà, on va faire court. Donc il a été formé au Conservatoire de Bordeaux, comme c'est ici, je le dis. Il a créé sa compagnie Le Soleil Bleu en 1992. Il a monté des pièces des plus grands auteurs du monde, Marivaux, Molière, Shakespeare, Brecht, Pirandello, donc à la fois des auteurs anciens et des auteurs contemporains. Édouard Bond, avec lequel je crois que la rencontre en 1995 fut décisive. J'en dis pas plus, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez l'interroger ou aller voir des choses écrites sur le site de la compagnie. En 2002, vous avez mis en scène Terminus de l'auteur australien Daniel Keane. Je crois que c'était la création en France. On a fait découvrir cette pièce, un auteur magnifique que j'aime beaucoup. En 2010, vous avez créé votre première pièce, enfin la première pièce que vous avez écrite, Castel Jaloux. Il a mis en scène également pas mal d'opéras. Je sais pas, deux, trois.
Sept
déjà, vous voyez, ça va trop vite.
On en a quatre ou cinq à Bordeaux. Peut-être
voilà. Donc voilà, un metteur en scène prolifique, comédien aussi. Donc. Voilà, j'en dis pas plus, parce que je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet.
Je vais faire un film de Castel Jaloux, j'en suis très fier parce que c'est une bataille.
Je savais pas. Donc, on vous soutient. Donc parlons de Joyce, puisque c'est l'auteur qui nous réunit ce soir ici. Je vais poser une question la plus simple possible. Pourquoi Joyce? Pourquoi mettre en scène James Joyce? Et pourquoi le personnage de Molly Bloom et avoir extrait... Molly Bloom, d'Ulysse, cette œuvre monumentale.
Alors, pourquoi, pour moi, personnellement, plutôt pourquoi Molly Bloom? C'est d'avant tout la rencontre entre un texte et une comédienne. Donc après, dans mon parcours de metteur en scène, il se trouve que j'ai connu... quand j'avais 20 ans, j'ai essayé de lire Ulysse. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à le finir. Donc j'ai dû lire le roman. Il m'a fallu 10 ans, je pense, pour arriver à vraiment lire le roman. Mais il se trouve qu'il y a 18 ans maintenant, j'ai vu Hélène Vincent qui jouait pour la première fois, je crois. Enfin non, pas, c'était pas pour la première fois, parce qu'il y a une autre actrice qui s'appelait Garance, peut-être vous avez connu, je ne sais pas, qui a joué ce monologue de Molly Bloom. Mais moi, j'ai découvert ce texte, c'était à Nanterre, aux Amandiers, il y a maintenant 18 ans. Et j'ai entendu et vu ce texte pour la première fois, donc joué par Hélène Vincent. Et c'est à ce moment-là que j'ai juste pensé, un jour, faudra que je fasse quelque chose si mon histoire avec une actrice est suffisamment... une histoire avec une actrice pour pouvoir porter ce texte. Non, mais parce que je pense profondément qu'à chaque actrice, il y a une Molly, et à chaque Molly, il y a une actrice. Mais pour moi, ce qui était important, c'était autant l'actrice que finalement, et Joyce et Molly Bloom, au fond. Voilà, dans mon histoire maintenant avec Céline, et c'est comme ça que je sais pas si c'est bête, mais en tout cas, simplement, je suis revenu à ce texte, et envie de raconter, de partager, à la fois amoureusement, parce qu'il se trouve qu'évidemment, enfin, vous le savez probablement, Céline est ma compagne, mais aussi intellectuellement, parce que c'est aussi une histoire... l'amour, ça se partage aussi dans une forme d'admiration qui, j'espère, est réciproque. Et voilà, qu'est-ce que peuvent faire un metteur en scène et une actrice, et à quel point ce texte est tellement pas, en fait, a priori, un texte de théâtre, parce qu'a priori, ce n'est pas écrit dans un premier temps pour le théâtre. Et en même temps, c'était le pari aussi avec Céline, parce qu'on était convaincus tous les deux. Qu'on pouvait faire de ce texte un vrai geste théâtral, et artistique, j'espère.
Et du coup, oui, vous parlez de ce texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, cette partie d'Ulysse hein, qui est assez longue, une centaine de pages, sans ponctuation, donc voilà, un travail pour l'actrice.
Huit phrases.
Pardon, huit phrases.
Et bon. De 15 pages chacune.
c'est quand même déjà pas mal. Donc comment vous avez travaillé ce texte? Est-ce que vous l'avez coupé? Elle le dit en entier. Comment vous avez entrepris ce travail?
Alors évidemment, ça a été un casse-tête. Vous pensez bien que c'est un sacré problème de maths. 8 phrases sans ponctuation, qu'est-ce qu'on allait garder, qu'est-ce qu'on allait raconter, parce que ce que je disais tout à l'heure, donc à chaque Molly une actrice, à chaque actrice une Molly, mais en fait en même temps Molly c'est une et toutes les femmes. On dit on est 1 et 1000, c'est Stanislavski qui disait ça, quand on est sur une scène, et c'est tellement ça, c'est tellement ça Molly Bloom, mais c'est tellement ça le génie en même temps de Joyce, d'être allé comme ça fouiller dans ce que peut être l'intimité d'une femme, en même temps ses fantasmes, les sentiments, en même temps tout ce que ça, les hommes en prennent plein la gueule, hein, si je puis m'exprimer, l'espèce de relation aux hommes, et en même temps, enfin on le sait, c'est le miracle de Joyce, comment un homme a pu écrire aussi bien la pensée, on appelle ça un monologue intérieur, et en effet, nous sommes dans la tête d'une jeune femme, parce qu'il peut y avoir une confusion là-dessus, Molly a 32 ans, 33 ans exactement, alors qu'on peut penser, parce que dans comment ça a été véhiculé, et là aussi de l'importance de la mise en scène, que le personnage était plus âgé, alors qu'en réalité c'est une jeune femme, mais qui a beaucoup vécu comme elle le dit, je crois que je me suis perdu, je voulais dire...
Je ne sais plus comment vous avez travaillé le texte.
Ce que j'ai privilégié, ce que nous avons privilégié dans le montage, parce qu'en même temps, si on joue entièrement le soliloque Molly Bloom, c'est 2h30 de texte. Et on est tombé très vite d'accord avec Céline en pensant que 2h30, peut-être, ça allait être difficile, même pour elle. Et que n'oublions pas que c'est fait pour être lu. Donc après au théâtre, donc là on en est arrivé à 1h10. En fait, ce que je n'ai pas gardé, c'est la mère, bizarrement. C'est-à-dire que pour moi, Molly Bloom, c'est une renaissance. C'est un personnage qui en fait parle avec nostalgie à la fois de son passé, parle pour la première fois, parce qu'on a tendance à oublier, parce que là aussi il y a des choses qui se disent sur Molly Bloom, parce que c'est Molly Bloom ou la chair qui dit oui, il avait mis un sous-titre, et qu'elle a beaucoup d'amants, alors qu'en réalité elle n'a pas beaucoup d'amants. Elle parle de ses premiers amants avant l'histoire avec Bloom, son mari, sauf qu'en fait ce jour-là est un événement, c'est un jour très très important pour elle, parce que c'est la première fois qu'elle vient de tromper son mari. Et donc, et depuis 10 ans, elle n'a plus de relation sexuelle avec son mari. C'est important de le comprendre, je pense. En tout cas, moi, quand je le mets en scène, je suis obligé de le comprendre. Pour au moins arriver à traduire des choses un peu plus concrètes et ne pas me laisser seulement bercer par la poésie. D'ailleurs, qui est une poésie très crue quand même, hein, qui est quand même un langage très, oui, très cru. Donc il est aussi beaucoup question de la mère et de l'enfant qui a été perdu. Donc sur ces choses-là, d'une part sa fille, elle a une fille, et ils ont tous les deux perdu un enfant. Là-dessus, on n'a pas privilégié cet endroit-là. Il existe très fort dans le spectacle, si vous venez le voir, mais j'ai choisi de le traduire visuellement, j'ai de le traduire scéniquement, cet endroit de la mère, et de garder dans le texte beaucoup plus l'endroit de la femme et ses désirs. Bloom, ça veut dire qui éclot. L'endroit de cette femme, en fait, qui en fait peut renaître chaque jour. Et il est comment en fait aussi donner. Il y a beaucoup d'espoir en fait. Il y a beaucoup d'espoir dans le personnage de Molly, je crois, sachant que tout ce qu'elle dit, c'est tout sauf de l'espoir. C'est toute la difficulté.
Et en quoi vous dites qu'il y a de l'espoir si c'est pas écrit? Comment vous le...
Il y a de l'espoir. Bah, de toute façon, le soliloque commence par oui et finit par oui.
C'est une bonne réponse. Alors là, on a parlé du texte, et comme je sais qu'il y a des étudiants et puis les autres aussi hein, qui s'intéressent beaucoup à la scénographie, parce que c'est une grande partie de notre formation, sans dévoiler trop de choses, mais on ira quand même voir le spectacle, même si c'est dévoilé. Je vais vous demander un petit peu comment vous aviez traité la scène de façon scénographique. J'ai vu qu'il y avait 3 noms en scénographie, donc est-ce que ce sont des scénographes avec lesquels vous travaillez d'habitude? et comment vous avez traité scéniquement ce monologue.
Donc c'est les scénographes avec qui je travaille depuis 20 ans maintenant, Eric Charbot et Philippe Casabon. Il y a trois noms parce qu'en fait c'est scénographie Eric Charbot, Philippe Casabon sur une idée de Laurent Lafargue, dans la mesure où j'avais très vite le désir en fait de mettre Céline dans, d'une part, de toute façon, comme l'enjeu est de rendre théâtral ce texte, vu que c'est un monologue intérieur, que c'est une succession de digressions. Comment parler de être dans la pensée de quelqu'un. Donc pour rendre théâtral cette chose-là, j'ai pensé qu'on avait besoin d'un appui très très fort. Et d'ailleurs, le théâtre se travaille, peut-être vous ne le réalisez pas quand vous voyez les spectacles, mais en fait, c'est une succession de bornes pour un acteur. Et un acteur sans appui ne peut pas jouer. Donc il faut absolument qu'il ait des rendez-vous, je ne veux dire pas seulement avec le texte, mais avec des rendez-vous avec le corps. Des rendez-vous avec le corps et le texte qui font sens. C'est presque ça, finalement, l'art de la mise en scène. C'est comment on recrée à chaque fois c'est cette rencontre et c'est ce choc-là qui va produire du sens ou pas. Donc la quête, c'est ça, c'est produire du sens. Non pas, parce que c'est toujours pareil, vous allez voir ce Molly Bloom ce soir, mais si demain vous allez voir un autre Molly Bloom, vous n'entendrez peut-être pas le même texte. C'est toute la complexité de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on peut le faire entendre différemment. Je pensais que... Donc, on a construit... Bon, de toute façon, au bout de 3 minutes, vous le savez, hein, donc je ne vais pas dénoncer quelque chose de très... Donc, c'est une grande boîte, enfin, c'est une pièce, en fait. C'est une pièce, un peu comme cette pièce-là, qui est un petit peu plus petite que celle-là, mais qui fait un petit peu plus petite quand même, jusque-là, on va dire. Et donc, il y a la chambre de Molly, et cette chambre, en fait, tourne sur elle-même, non pas comme sur une tournette à plat, mais sur une tournette comme une espèce de, comment on appelle ça, de boîte de cage à hamster, enfin, je ne sais pas. Je ne considère absolument pas que Céline ni Molly soient hamster. Mais... Donc, ce qui, effectivement, produit un mouvement assez étrange. C'était pas sûr que ça marche. C'était un pari. Mais ça marche. Ça marche dans le sens où ça produit vraiment du sens sur la pensée, sur ces nuits où on a tous passé nos nuits à ne pas réussir à dormir. Et c'est ça, la situation. Elle ne réussit pas à dormir et où tout est sans dessus, sans dessous, où il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit, où on est un peu perdu dans nos pensées, dans nos flips, nos peurs de l'avenir, mais nos peurs du passé, de ce qu'on a raté, de ce qu'on a réussi. Est-ce qu'on regarde le cahier des réussites ou est-ce qu'on regarde le cahier des échecs? Enfin, donc cette boîte tournante est à la fois effectivement produit du spectacle, mais c'est pas forcément ce que je cherchais non plus. Mais en même temps, avec toujours le souci, et c'est ce que j'ai fait dans mes spectacles d'ailleurs, parfois on me le reproche, c'est de rendre, non pas que je fasse un théâtre pédagogique, je ne pense pas, ni explicatif, mais en tout cas, j'ai toujours la préoccupation de rendre les choses accessibles. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important, de rendre les choses accessibles sans démagogie. C'est pas facile.
C'est pas facile du tout. Donc la scénographie participe de rendre accessible ce texte, on l'a bien compris. Une dernière petite chose, je crois qu'il y a de la musique.
Beaucoup de musique. Aussi, on a Molly est chanteuse. Molly Bloom est chanteuse, donc Céline chante. Et puis j'ai travaillé avec Joseph Doherty, qui est un Irlandais, pure souche. Et heureusement que j'ai travaillé avec Joseph, qui a été très 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 précieux, parce que Joyce fait beaucoup référence à la musique, très 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 souvent dans le roman, dans le monologue, soliloque de Molly. Et donc il y a une partie... Oui, il y a une partie référence musicale dans le spectacle assez constante, où souvent Céline fredonne, où donc là il y a eu un travail important, et donc un compositeur, Joseph Doherty, qui a composé la musique pour ce spectacle.
Alors est-ce que traducteur, la traductrice ont des questions à poser à Laurent Lafargue, ou des choses à rajouter sur Molly Bloom avant qu'on passe aux poésies tout à l'heure, aux poèmes, je ne sais pas comment...
Des questions, non, parce que j'ai pas vu le spectacle. Donc
oui, mais c'est difficile, hein, moi non plus. Personne. Enfin, il a déjà été joué, mais bon, on attend.
La seule chose que je pourrais souligner, donc je sais pas si ça apparaît ou non dans le spectacle, donc c'est toujours un peu, c'est qu'évidemment le livre s'appelle Ulysse, donc c'est une référence homérique. même si Joyce joue avec l'œuvre d'Homère avec une décontraction, aussi bien concernant la chronologie que dans le mix des épisodes, etc., etc. Il appelait l'épisode, le fameux dernier épisode dans sa correspondance jusqu'à la fin. En fait, il a décidé d'enlever les références homériques à la fin. Donc, chaque chapitre avait le titre qui était en référence à l'épopée d'Homère. Donc, en l'occurrence, la dernière partie s'appelait Pénélope. Et juste ce que je voulais souligner, je ne sais pas si ça apparaît, c'est qu'effectivement, donc, Molly a trompé le pauvre Léopold dans la journée. Léopold le savait très bien, d'ailleurs. Il savait même à quelle heure. Enfin, bon, c'est récurrent dans Ulysse. Il attend ses 4 heures avec... Et quand elle repense à cet acte commis dans l'après-midi, il en ressort plutôt du dégoût et une énorme tendresse ressurgit pour Léopold, qui effectivement avec lequel elle n'a pas fait l'amour depuis 10 ans, mais qui est un gentil époux, un bon père, et évidemment de façon analogique. Ulysse tue les prétendants à travers Pénélope, puisque le victorieux de ce monologue, c'est Léopold. Celui qui s'en sort, elle détruit effectivement les hommes, comme vous disiez. Elle n'est pas elle manque pas de lucidité quant à Léopold, donc elle peut souligner les défauts qui sont les siens. Elle n'est pas non plus aveuglée par son amour marital, mais il se trouve que finalement, il y a 2 hommes épargnés, cette espèce d'hécatombe. Elle se substitue à Ulysse pour tuer tous les prétendants. C'est effectivement Léopold et son premier amour. Le monologue finit là-dessus, d'ailleurs, sur une réminiscence de ce premier amour. Parce qu'effectivement, comme vous soulignez à juste titre, on présente toujours un peu Molly comme étant une espèce de femme légère et tout ça. En fait, elle a très peu. Elle n'a pas fait grand-chose.
C'est le fantasme du
voilà, et même avant de se marier avec Léopold, elle a eu une vie amoureuse dont on ne sait pas trop au niveau sur le plan charnel, on ne sait pas bien ce qui s'est fait ou non. Mais il y a eu ce jeune homme à Gibraltar, etc., etc., sur lequel elle va s'endormir finalement comme une sorte de réminiscence de l'innocence perdue. Enfin, ça prend un sens très poétique. C'est-à-dire que dans la vie, finalement, c'est Léopold qui gagne par rapport à Boylan. C'est le nom du fameux amant qui, en fait, est son manager, son impresario. Elle est chanteuse et c'est lui qui organise ses tournées. Et donc, cette espèce de partie de jambes en l'air dans l'après-midi, ça l'a pas convaincu plus que ça. Elle est même à la limite du dégoût. Voilà, survit à cette hécatombe, Léopold, je voulais le souligner quand même, parce que c'est quand même un des héros d'Ulysse, avec Stéphane Dédalus, et ce jeune amour de jeunesse, avant qu'elle ait rencontré Léopold, avec lequel on ne sait pas trop s'il y a eu quoi que ce soit finalement, et c'est peut-être pour ça qu'elle a cette espèce de nostalgie de cet amour, en fait, rêvé en quelque sorte, enfin, idéalisé. Voilà.
Tout à fait. Et c'est intéressant parce que, bon, il se trouve que bon, moi, je viens de mettre en scène Molly Bloom, donc je viens de pas mettre en scène Ulysse. Enfin, ouais. Où il me faut 3 jours. 3 jours de représentation, pourquoi pas, ça serait magnifique aussi. Où on fait la Bloomsday, on fait le parcours de tous les cafés parcourus et fait un spectacle dans chaque café, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas absurde. D'ailleurs, c'est qu'on peut quand même dissocier bizarrement Molly Bloom, le dernier, c'est chapitre 18 en fait. Je sais plus, je crois, ouais. On peut dissocier le dernier chapitre. Enfin, on n'a pas besoin, je veux dire, d'avoir lu le roman. D'ailleurs, vous voyez, on en parle finalement sans une connaissance totale du roman. On peut dissocier Molly Bloom. Du roman, en fait. C'est tout. Pardon.
Mais malgré tout, vous prenez ce roman-là pour parler de la femme, du désir et de tout ce dont vous avez parlé. Vous n'avez pas pris un autre texte. Ah, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois, bien sûr. Sachant que c'est pas entièrement... Elle vient de le tromper quand même, donc ce n'est pas Pénélope. Hein.
Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'avais dit
Tout à fait, c'était bien dit. Non, mais je tiens à le dire aussi, parce que
quelque
part, à un moment donné, il a vraiment pris une liberté.
Ah oui, mais totale, d'un bout à l'autre.
Mais il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il s'est quand même dit, à un moment donné, je ne peux pas écrire quelque chose d'aussi sage.
Oui.
Peut-être, je ne sais pas, mais...
Marie ?
Oui, moi j'aurais une question en tant que traductrice, puisque je suis aussi traductrice. Vous avez travaillé sur le texte, sur la traduction de Tiphaine Samoyo. Ouais. Est-ce que vous avez eu une relation proche pour transformer le texte, mais adapter le texte ? Est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Est-ce que vous vous êtes vus ? Ou simplement le texte était là ? Et est-ce qu'elle est intervenue pour dire d'une façon aussi scénique, je l'ai presque dire scénographique, transformer le texte par rapport à sa première version, enfin la version qui est publiée dans, sous sa signature. Est-ce qu'il y a eu des transformations ? Est-ce que vous avez travaillé avec elle ? Quelles ont été vos relations ?
Alors je vais vous décevoir.
Oui.
Non, aucune.
Non, c'est une curiosité.
Non, aucune.
D'accord.
Aucune relation, le texte. Et le montage, après, je l'ai fait avec Céline.
D'accord.
Et après, dans ma relation avec Joe, dont je parlais tout à l'heure, qui est irlandais, qui a aussi une vraie culture de ça. Enfin, mais en même temps, je me suis attaché à la culture qu'il avait affective de ça. Comme nous, pour avoir les premières lectures. Enfin, lui, c'était des choses comme ça qu'il connaît depuis l'enfance. Donc, je me suis attaché plutôt à... Bizarrement, le compositeur musicien. Mais non, j'ai absolument pas travaillé avec traductrice. En revanche, mais de toute façon, je ne suis pas capable de. Je ne peux juger que le texte une fois traduit. Réellement, je ne serais pas capable de faire une. Sinon, j'aurais fait la traduction d'ailleurs. Enfin, j'aurais travaillé ou j'aurais engagé quelqu'un pour refaire la traduction. Mais là-dessus, je suis. Donc après, où le texte, j'avais le choix. Soit je prenais l'ancienne traduction, qui n'est pas si mal, ou celle-là, mais qui Alors donc, évidemment, là-dessus, j'ai pu comparer les deux traductions. Il y a des gens qui font ça, hein, qui connaissent absolument rien, mais qui se permettent, avec trois traductions, de faire eux-mêmes leur traduction. Ceci en passant. Mais non, mais ceci, parce que ce n'est pas totalement possible à faire en réalité. Hein. Il suffit de être un petit peu bosseur et on y arrive. Mais donc non, j'ai fait d'après son texte. Donc j'ai pris le texte tel qu'il était, cette matière telle qu'elle était. Et non. Et cela dit, c'est intéressant, ça ferait l'objet d'une autre conversation très longue. Mais c'est vrai que ça peut être passionnant le travail avec un traducteur, mais c'est pas quelque chose de facile à faire réellement entre un metteur en scène et un.
Vous l'avez fait.
Cela dit, c'est jamais facile non plus entre un metteur en scène et un auteur en réalité.
Vous aviez travaillé avec Edouard Bond, vous aviez fait traduire par Hankins, Jérôme Hankins, c'est ça ?
Jérôme Hankins, ouais. Edouard Bond, et après quand Daniel Kins c'était avec Séverine Magua, donc effectivement, alors là par exemple, là oui, là c'était une demande de traduction, donc là j'étais intervenu en fait dans la nature de la traduction quand j'ai travaillé avec Jérôme Hankins, mais j'avais travaillé directement avec Edouard Bond, que je suis allé voir chez lui, qui m'aidait vraiment aussi même à comprendre, enfin qui m'aidait dans ma mise en scène, qui me poussait dans mes retranchements, mais aussi dans des choses. Ça, cela dit, c'était vraiment passionnant parce que Bond n'était absolument pas d'accord avec ce que je voulais faire de sauver, enfin dans le sens où il me disait que c'était absolument pas ce qu'il avait pensé quand il écrivait ce texte, mais il m'a énormément encouragé à aller au bout de ce que je pensais qui était juste. J'ai jamais oublié cette capacité-là, de cette intelligence-là.
Oui, c'est vrai que de la part d'un auteur, ça peut.
Tout à fait.
C'est assez rare. On va remercier Laurent Lafargue, parce que je crois que là, il faut qu'il y aille. Et donc, je vais laisser la parole à Marie Tramuta, Marie-Josée Tramuta, qui va présenter Philippe et continuer l'entretien.
Bien, bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Je suis très impressionnée par ce public très dense. Et ben maintenant, il m'incombe de présenter Philippe Blanchon pour deux raisons, deux bonnes raisons. D'abord, parce qu'il est l'auteur d'un très bel essai sur James Joyce dont on va parler, qui s'intitule Joyce, une lecture amoureuse, et également un merveilleux petit livre dont je vais parler un peu plus tard, qui s'intitule « Musique de chambre ». Mais avant, je voudrais le présenter. Donc, comme il a été dit tout à l'heure par Pascal Rousseau, il est poète, éditeur, essayiste, traducteur. En tant qu'éditeur, il a publié notamment d'autres poètes, Cummings, Charles Olson, Wallace Stevens, Williams, Carlos Williams, mais aussi Eugenio De Signoribus, un poète italien que j'aime beaucoup, Jean le Grand, etc. En tant qu'auteur, il est notamment l'auteur d'un recueil de poésie qui s'intitule « Le livre de Martin », qui a été publié à la NERT en 2010. La NERT, c'est la maison d'édition dont il est l'éditeur, une maison d'édition à Toulon, une ville que nous aimons beaucoup parce que nous avons le bonheur d'habiter tous les deux à Toulon. Et puis, il est donc aussi traducteur et il a traduit ce petit livre qui s'intitule « Musique de chambre, Poems, Peniche et Ecce Puer » ou « Ecce Puer » selon les prononciations. Ce petit livre qui est une petite merveille, si je puis dire, qui a eu un écho d'estime et d'émerveillement, je peux le dire, dans les pays anglo-saxons, d'abord parce qu'il est en bilingue. Pourquoi ? Parce que en fait, ça reprend. Ce sont un recueil de poèmes de James Joyce qui n'avait jamais paru dans sa version conçue par Joyce. Il existait déjà dans l'édition, tu vas en parler bien sûr, mais il n'existait pas dans l'ordre voulu par James Joyce. L'ordre, il avait laissé à son frère Stanislaus le soin de s'occuper du livre. Il était occupé à autre chose, Philippe va tout vous dire. Et donc, ce livre, paru l'année dernière, est une véritable première édition. C'est un livre absolument magnifique que Philippe a traduit avec Toby Gentile-Gilbert, qui est tout près. C'est une merveille. Donc, le Times Literary Supplement en a parlé. Lawrence Ferlinghetti, le libraire mythique à San Francisco de la City Light, de cette librairie magnifique, en a parlé. Beaucoup d'anglo-saxons en ont parlé. Et en France, ça a été une réserve polie, même si les lecteurs, par contre, ont beaucoup apprécié, à tel point qu'il a été.
Il est
épuisé, mais pas pour longtemps. Donc, en fait, Philippe est un amoureux inconditionnel de Joyce. Et maintenant, je me tais et je lui donne la parole parce que l'entendre, c'est un plaisir et une joie. Et une joie. Et le mot joie est inscrit aussi dans le nom de James Joyce. Et c'est excessivement important. Donc, à toi.
Bah, merci à vous d'être là. Bonsoir. Alors, je voudrais commencer par dire quelques mots sur l'essai, et en fait, ça me permettra d'enchaîner sur les musiques de chambre. Pourquoi commettre un essai sur Joyce ? Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait quasiment 20 ou 30 ans qu'en France, il n'y a pas d'ouvrage général qui n'est paru sur Joyce, ce qui paraît incroyable vu l'ampleur de la réputation de cet auteur. Et d'autre part, au fil de mes rencontres et au fil de mes conversations, en tant qu'aussi bien éditeur qu'auteur, donc je suis forcément en relation avec des confrères, avec d'autres amis éditeurs, traducteurs ou auteurs, il s'avérait que Joyce, finalement, était beaucoup moins lu qu'on pouvait l'imaginer, que c'était davantage un auteur qui faisait peur qu'un auteur qui faisait envie. Et cela me navrait profondément. Toute motivation est toujours subjective, donc je l'assume parfaitement. D'ailleurs, je voudrais souligner qu'il est une chose très française que quand quelqu'un écrit un essai en France, on veut toujours avoir un espèce de ton un peu objectif et tout ça. Moi qui ai beaucoup lu de littérature joycienne anglo-saxonne, même les universitaires vous racontent comment ils ont découvert Joyce, pourquoi ils l'aiment, etc., etc. Enfin, il n'y en a pas cette espèce de... Ils vous mettent d'ailleurs ce qui vous aide... considérablement, qui sont vraiment dans une démarche de partage, même si derrière, il va y avoir des démonstrations et des choses explicatives. C'était pour le souligner un petit peu par une sorte de précaution oratoire. Donc si je parle de moi, c'est pas par manque de pudeur, loin s'en faut, mais parce que les choses se déroulèrent ainsi. C'est que moi, depuis 25 ans, je lis Joyce de façon récurrente et régulière. Je ne compte plus les nombres de fois où j'ai lu Ulysse et non plus Finnegan's Wake. Donc, et à chaque fois que j'en parlais, je me retrouvais finalement tout seul, quoi. La plupart des gens me disaient comme le monsieur ou comme tout à l'heure, j'arrête au bout de 100 pages ou même je l'ai même pas commencé. Enfin, et donc c'était effectivement, je me sentais aussi seul que le pauvre Stéphane Dédalus, toute proportion gardée, quoi. Et surtout, pour moi, ce qui était dommage, parce que après mon cas personnel peut être tout à fait secondaire, et il l'est, c'est que les gens se privaient d'un plaisir absolument extraordinaire, absolument rarissime dans la littérature mondiale. C'est que si je lis Rolly Joyce, c'est parce que j'y prends évidemment du plaisir, je ne me force pas. Les gens qui en parlent comme d'un pensum, je me dis, ils l'ont mal abordé, ou Joyce, je pense, souffre de sa réputation et de ce qu'on a pu dire sur lui. C'est pour moi une des œuvres, il y en a d'autres évidemment, mais vraiment, pour ça que ça s'appelle lecteur amoureuse, que j'ai le plus de plaisir à lire et à relire. Vraiment, c'est pour moi une écriture absolument jubilatoire. Il y a une complexité, on découvre des choses à chaque lecture. Enfin, c'est vraiment un bonheur à chaque fois renouvelé. Donc, si j'ai écrit cet essai, c'était dans le but. Je trouvais que ça manquait en France. Ça existe dans la littérature anglo-saxonne joycienne, même écrit par des gens très savants, mais qui se mettent véritablement, qui ont véritablement ce souci d'un partage, parce que leur motivation première, c'est pas un poste dans une faculté de joycien, mais parce qu'ils aiment véritablement Joyce. Et ils vous racontent souvent comment ils l'ont lu la première fois sur le jardin du Luxembourg, dans l'édition originale ou autre, enfin, où il y a un rapport véritable avec l'œuvre de Joyce personnelle. Et ces gens savent faire passer à travers leur amour de Joyce, une connaissance de Joyce. Et parce que effectivement, quand on a pratiqué cette œuvre comme je peux l'avoir pratiquée, il serait malhonnête de ma part que de dire que c'est une œuvre d'un accès facile. Donc, ma double ambition était celle-ci, c'est-à-dire de faire partager mon plaisir et de faire gagner du temps à d'autres lecteurs. Une fois que, si la première partie était réussie, c'est-à-dire que je rendais Joyce enfin, j'allais dire presque dire fréquentable, qu'on avait enfin envie d'aller à lui, faire bénéficier de ces lectures répétées qui furent les miennes pour débroussailler le terrain et donner des pistes de lecture, véritablement dire, sans traverser l'œuvre ni qu'elle en... De toute façon, elle est tellement immense que de toute façon, on pourrait écrire 1000 pages sur chaque livre de Joyce. Donc, donner des pistes de lecture pour que le lecteur ne se retrouve pas perdu dans une espèce de forêt obscure, et notamment concernant Ulysse et Finnegan's Wake, pour faire gagner du temps. Parce que moi, il se trouve que j'ai dû le lire un nombre de fois. Les premières lectures ont été tout de suite très, très heureuse, mais beaucoup de choses m'échappaient. Et donc, c'est après plusieurs lectures que la construction générale de l'ouvrage, les enjeux généraux de l'ouvrage, ou des ouvrages, surtout Ulysse et Finnegan's Wake, me sont apparus. Donc, il me semblait de bon augure de vouloir faire partager cette expérience-là. Surtout qu'après coup, parce que je lis peu des livres sur les auteurs que j'aime. Je n'ai pas cette démarche-là. Quand j'aime une œuvre, je la lis, je la relis. Et donc, je me suis rendu compte, en lisant justement de la littérature anglo-saxonne sur Joyce, que j'avais perdu du temps, que certains, qui sont malheureusement pas traduits, là j'ai par exemple le livre de Tyndall avec moi, que je repotassais dans le train, il y a des tas d'ouvrages anglo-saxons qui font ce travail de guide. D'ailleurs, ça s'appelle là, c'est le Reader Guide to James Joyce. Donc il y avait ces ouvrages que si j'avais lu j'aurais gagné un peu de temps. Donc c'est un peu une sorte d'équivalent en français, même si ce n'est pas inspiré par ces ouvrages-là, puisque je suis en train de les lire depuis. Je me suis vraiment focalisé uniquement sur le texte de Joyce. Et donc, voilà. C'était ce que je voulais vous dire en ouverture. Et puis surtout, ce qui était problématique pour moi, c'était cette lourdeur qu'entraîne cette réputation. Il y a des œuvres qui, finalement, d'être estampillées un chef-d'œuvre, c'est pas vraiment un service qu'on leur rend, même si, en l'occurrence, il se trouve que là, nous sommes face à un génie comme l'humanité en a guère connu, en a peu connu à travers l'histoire des lettres. Mais ce n'est pas parce que c'est une œuvre absolument géniale que... Elle ne doit pas être lue par tous, et bien au contraire, justement, c'est parce qu'elle est géniale qu'elle doit être lue par tous. Il vaudrait mieux que le plus grand nombre visite des chefs-d'œuvre plutôt que l'inverse. Donc, donc voici, voilà, c'était pour rebondir avec la musique de chambre. Je pense que tu pourras d'autres questions de détail. Ma longue pratique de Joyce. Il y avait un problème dans cette histoire. C'est que tout de suite, j'avais vu que le portrait d'un jeune homme était un chef-d'œuvre. Ce que je conseille d'ailleurs aux gens, c'est de lire l'œuvre de Joyce dans son ordre chronologique. Ça me paraît essentiel. C'est que je n'ai pas pu en parler tout à l'heure par rapport à Molly Bloom, mais l'œuvre de Joyce ne fait qu'une. En fait, il n'a écrit qu'un seul livre. Donc, on peut isoler des passages pour les mettre en scène, ou pour en faire, ou pour en parler, ou pour faire. Mais l'œuvre de Joyce est une. Donc, lisez d'abord les Dubliners, parce que maintenant on traduit plus Jean de Dublin. Lisez ensuite Le Portrait d'un jeune homme avant d'attaquer Ulysse. D'une part, parce que vous retrouverez les mêmes personnages. Donc, c'est véritablement une même œuvre. Donc, on se focalise sur Ulysse en se disant, puisque c'est son chef, je vais le lire. Mais si on ne sait pas qui est Stéphane Dédalus, puisque les trois premières parties concernent Stéphane Dédalus, je voudrais bien savoir qui est assez malin pour saisir toutes les subtilités et ne pas se retrouver tout de suite perdu dans les trois premiers épisodes. Et là, en l'occurrence, pour répondre à tout à l'heure, même s'il est absent, ce n'est pas Molly Bloom qui va vous aider à lire Ulysse. Non, il faut lire Jean de Dublin et Stéphane Dédalus. Puisque vous allez commencer Ulysse, en retrouvant Stéphane Dédalus, que vous avez laissé quasiment à la chronologie près, puisqu'à la fin, à la fin du portrait du jeune homme, Dédalus décide de quitter l'Irlande, et au début d'Ulysse, c'est Dédalus qui rentre en Irlande, contraint et forcé par une très mauvaise nouvelle, à savoir sa mère mourante, et qu'on retrouve... on retrouve Dédalus qui a passé quelques mois à Paris, d'où le monologue de Protée qui est le troisième épisode, où c'est qu'il y a des réminiscences de sa vie parisienne, etc. etc. Donc tout se suit, et tous les personnages qui traversent Ulysse sont dans Jean de Dublin. Donc ça, je trouve que même sur le plan pédagogique, je suis très étonné que c'est des choses aussi simples que ça qui ne sont pas dites avant d'aborder l'œuvre de Joyce, parce que j'entends beaucoup parler de Joyce autour de moi, et c'est des choses aussi basiques que ça. Me semble, si je vous mets tout de suite dans les mains Finnegan's Wake, vous allez être perdu. Et Finnegan's Wake, c'est pareil. Si on n'a pas lu Ulysse, on ne peut pas comprendre Finnegan's Wake. C'est absolument impossible. Donc chaque œuvre s'enchaînent les unes après les autres, et chaque livre de Joyce, donc il y a cette cohérence dans le corpus, et chaque livre de Joyce est pensé en certaine manière sur un même procédé. C'est ce catholique hérétique, si on peut dire. C'était quand même formé par les jésuites, donc la Trinité est importante pour lui, comme la consubstantialité du Père et du Fils qu'on retrouve dans Ulysse. Donc oublier que Blum est père, ça me paraît un peu énorme, et que leur fils est mort, Rudy, ça me paraît aussi un peu énorme. Mais donc, c'est une parenthèse, tous ces livres sont construits de façon tripartite, tous, et suivent une courbe, un mouvement émotionnel. Il appelait ça tout simplement un mouvement émotionnel. Il faut savoir, pour aborder Joyce, pour ne pas être complexé devant Joyce, que Joyce n'est pas un intellectuel, c'est un très grand lecteur, c'est un type... mais c'est quelqu'un qui n'a qui a très peu théorisé. C'est le seul texte qu'il a écrit, on va dire théorique, sur lequel il ne reviendra pas, que ce soit sur Giordano Bruno, qui seront les piliers de sa pensée, sur Aristote, ce qui est vraiment est constitutif de son esthétique, sont écrits entre 20 et 25 ans, alors qu'il n'a pas fait son œuvre. Une fois qu'il commence son œuvre, Joyce ne va pas se mêler du tout de la vie, polémique et artistique de ses contemporains, ne va pas faire de travaux d'érudition. Pour lui, il espère, et pour moi, quand je le lis, c'est comme ça que je le lis, écrire un roman, écrire une œuvre d'art. Et s'il a des choses à dire, aussi bien sur le plan philosophique, esthétique, théologique, tout ce qu'on voudra, de la même manière qu'il est dans la grande tradition, par exemple, de Dante, il l'introduit dans son œuvre comme Dante introduit dans la Divine Comédie son jugement sur ses contemporains, la vision qu'il a de la poésie, etc., etc. Joyce fait absolument la même chose. C'est dans Finnegan's Wake, dans Ulysse, dans certaines interventions de Stéphane Dédalus, où nous voyons, où à l'intérieur de dialogues, donc de façon très vivante, les visées esthétiques de Joyce passent à travers ses personnages. Ça n'a jamais été un théoricien. Et donc, je vous dis, là, son œuvre critique est très, très brève et elle s'arrête à partir du moment donné où son œuvre littéraire à proprement parler commence. Ouais, il n'a plus besoin de s'expliquer. Et il sera navré, d'ailleurs. Ça aussi, je le dis, parce que les gens, c'est par rapport toujours à des complexes que ça... Joyce n'écrit pas pour des happy few. Quand Ulysse est incompris, il en est absolument consterné. Il pensait avoir écrit une œuvre simple. Enfin, une œuvre simple. Il savait qu'elle était quand même compliquée, mais enfin, il ne pensait pas qu'elle l'était au point que le lecteur... ce que renvoyait le lecteur l'a renvoyé à sa solitude, finalement, à cette fameuse solitude de ce jeune homme Dédalus avec sa canne de frêne. Donc, il n'avait pas cette espèce de snobisme avant-gardiste d'être incompris, vous auriez épaté le bourgeois, et pas du tout. Je veux dire, c'était absolument pas du tout son modèle, ni esthétique, ni éthique. Joyce écrivait pour nous tous, s'adressait à nous tous, et donc le fait qu'il se rende compte de l'incompréhension ne pouvait que le navrer. D'ailleurs, il a failli abandonner l'écriture de Finnegan's Wake, puisque quand Finnegan's Wake commence à paraître en feuilleton, comme il en rajoute une louche par rapport à la complexité de sa langue, là tout le monde lui dit, même des amis proches, il commence à l'abandonner en lui disant non mais ça y est, James, on te supplie, là, il va être totalement désespéré, il va penser à abandonner. Et finalement, il va se dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, ils mettront 20 générations à le comprendre, allez, roule, de toute façon, j'en fais qu'à ma tête. Mais voilà, c'était pour présenter aussi ce personnage. Et dans cet essai que j'ai écrit, si je fais rentrer l'élément biographique, c'est pas du tout... Pour donner tort à Proust dans son Contre Sainte-Beuve, loin s'en faut, je pense qu'une œuvre se justifie par elle-même, mais il se trouve que dans le cas de Joyce, il y a tellement de lieux communs qui circulent, qui finalement s'avèrent tous néfastes pour Joyce, que si j'ai fait rentrer des éléments biographiques dans ce livre, c'était pour rendre Joyce à son humanité, à sa simplicité, afin de donner encore davantage envie de le lire, parce que je sais aussi qu'on fonctionne tous comme ça en tant que lecteur. On aime bien aimer l'écrivain qu'on lit. Et donc, comme je trouvais James et sa vie très aimable, et c'est pour ça que le livre se construit à travers la chronologie, sa biographie et sa bibliographie. Donc, je vais en venir à ces histoires de poèmes. Donc, tous les livres de Joyce sont construits suivant un schéma très précis, avec une courbe. Pourrait aller dire de la grisaille à la lumière, enfin, peu importe. Jean de Dublin, par exemple, commence par cette espèce de personnages qui sont dans la paralysie de Dublin et finit par la nouvelle Les Morts, où il y a cet élément épiphanique de Gabriel qui voit l'union des âmes, des âmes des vivants et des morts, et qui vit cette très belle réconciliation avec sa femme Greta. Pour ceux qui l'ont lu, ça va évoquer des choses. Donc il y a toujours un mouvement comme ça. Dédalus, le portrait d'un jeune homme va aussi commencer par... c'est toute la vie de ce jeune homme, jusqu'à ce qu'il ait 22 ans et qu'il s'émancipe, se libère. C'est une histoire d'une libération. Donc, il est pris dans cette grisaille de ce collège de jésuites où il souffre de l'Inde des injustices de ses maîtres, où il va être absolument torturé au plus profond de lui par le prêche du père Arnal parce qu'il a commis le pire des péchés, à savoir il a couché avec une prostituée, donc il a peur des flammes de l'enfer. Enfin, une grande partie de ce livre est dans cette espèce de grisaille, de paralysie à la fois sociale, religieuse, qu'est l'Irlande. Et l'histoire de ce livre est une histoire d'une émancipation. Stéphane s'émancipe de tout ça, dit non à l'Église, dit non à la nation irlandaise, dit non, il décide d'être un citoyen du monde. Donc à la fois, il foutra le camp. Il s'émancipera de ses maîtres irlandais, du gaélique. Il le lira Ibsen, Byron. Donc, c'est l'histoire d'une émancipation. Et une des dernières phrases du livre, c'est « Bienvenue, ô vie », etc., etc. Donc, à chaque fois, on a cette espèce de courbe, comme le monologue de Molly finit par le « oui ». De la même manière, Ulysse commence par, autour du personnage Télémaque, le fils Stéphane Dédalus, qui est un homme, un jeune homme, il a 22 ans, qui est pris entre le remords vis-à-vis de cette mère morte, devant laquelle il a refusé de s'agenouiller, puisqu'il a tourné le dos à l'Église, mais en même temps, il vit tout ça de façon avec beaucoup de remords. Et en même temps, c'est un homme qui est pris de qui est éminemment mélancolique, qui n'est pas formé en tant qu'homme. C'est là où il est le fils par rapport à Blum, qui Blum est l'homme qui assume la vie dans ses aspects les plus charnels. Et donc là, on a quelqu'un qui est torturé par par des pensées moroses, par beaucoup de d'introspection aussi bien scolastique que philosophique, etc., etc. Et ça finit par ce oui de Molly. Et donc ces poèmes me posaient problème parce que les poèmes tels qu'ils étaient publiés, j'y viens.
Oui.
Tels qu'ils étaient publiés, je retrouvais pas du tout ça. Je me dis, il y a quand même un problème. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi Joyce a écrit tous ses livres sur le même canevas, puisque Finnegan's Wake, c'est pareil, ça finit par la résurrection d'Earwicker, le personnage. Donc, pourquoi ce livre-là n'a pas cette dramaturgie ? Et par hasard, dans un livre américain, il m'est tout simplement offert, c'était une simplicité enfantine, de voir l'ordonnancement du manuscrit 1905 de James Joyce, qui correspondait absolument pas, effectivement, à l'agencement qu'a fait Stanislaus lors de l'édition en 1907. Alors pourquoi c'est Stanislaus qui s'en occupe ? C'est que Stanislaus, c'est le frère de James Joyce, ils vivent à ce moment-là à Trieste, ils sont très proches, ils aiment beaucoup la littérature, ils ont découvert ensemble beaucoup d'écrivains, etc., etc. Leur goût diffère d'ailleurs, mais il a du mal à suivre l'écriture de son frère. Et il est très attaché à ses poèmes que Joyce a écrits très jeune, entre 20 et 22 ans, et va à tout prix les publier, etc., etc. James Joyce, à ce moment-là, est en plein dans l'écriture de ce qui va devenir le portrait d'un jeune homme. À l'époque, il a amassé quasiment 1000 pages manuscrites, dont il nous a resté que quelques fragments qui sont publiés sous le titre Stéphane le héros. Donc il est en plein dans ce travail qui pour lui est essentiel. Il a fini Jean de Dublin, pour lequel il va se bagarrer pendant 14 ans pour le voir publié. Donc ces espèces de poèmes de jeunesse, en fait, il n'a pas la tête à ça, donc il dit à son frangin, bon, bah, écoute, si tu as envie de les publier, il lui laisse en disposer. Et donc Stanislaus recompose le recueil comme lui-même, voilà, de façon très... D'ailleurs, une lettre de Joyce dit à son frère, c'est là où c'est que tout ça quand même se tient, c'est qu'il lui dit, je comprends pas ton arrangement. Il le laisse faire, mais il lui dit, je comprends pas du tout ce que tu as fait de mes poèmes. Mais en même temps, bon, je vous dis, il est tellement obsédé par cette bataille pour publier Jean de Dublin que personne ne veut publier, tout le monde a peur de la censure. Le livre sera même imprimé, les plaques seront détruites parce que l'imprimeur aura peur de la censure. Enfin, il y a une histoire de l'histoire éditoriale de Joyce, c'est absolument est un roman en tant que tel. Donc, et dans l'écriture de Stéphane le héros, qui est sa première grande œuvre en prose de longueur après ses nouvelles, donc il laisse tomber. Et donc, moi, quand je découvre cette version de 1905, je remets en page, je remets les choses dans l'ordre, et là je me rends compte, bah oui, c'est du Joyce parce qu'on a une véritable dramaturgie. C'est-à-dire qu'on a une histoire. on a une histoire et on a toujours cette espèce de progression. Là, à savoir, c'est une histoire amoureuse, puisque ce sont des poèmes d'amour que Joyce dédie, écrit en pensant à une jeune voisine que fréquente lui et son frère. Et donc, ce petit recueil de poèmes est un petit roman avec une histoire assez simple, mais qui est quand même capitale pour la saisie de l'ensemble et pour sa lecture et pour même l'émotion qui s'en dégage. C'est un amour qui naît. C'est un jeune homme qui fait sa cour. C'est un jeune homme qui conquiert la belle. L'amour est consommé. L'amour décline. Et le poète en appelle à sa bien-aimée à ce qu'il ne s'oublie pas et que, suite à cet amour charnel, cette passion qui s'en va, se substitue une tendre et fraternelle amitié. Ce qui était absolument tout à fait joycien. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'œuvre la plus bienveillante, une des œuvres les plus bienveillantes qui a été écrite dans toute l'histoire humaine. Parce que pour moi, vraiment, ce qui domine dans l'œuvre de Joyce, c'est la bienveillance qui porte sur nous. Et le rapport amoureux de Joyce est tout à fait singulier. Donc là, enfin, dans ses poèmes remis en ordre, je retrouvais, il n'y avait aucun problème. Parce que dans l'ordre de Stanislas, un coup, le poète pleurait en disant « aime-moi », un coup, il était joyeux comme truc, après, il était tout seul, après, ils étaient ensemble dans les mains dans la main. Enfin, je dis, mais c'est quoi ce bazar, quoi? Alors que dès que... Non, mais c'est vrai. Et jusqu'à effectivement cette édition, même aux États-Unis, c'est toujours l'édition, ou en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, c'est toujours l'édition de Stanislas qui a repris l'édition de cette. Donc, ce qui m'a énormément excité, c'était effectivement de retrouver cette cohérence enfin. J'avais une solution, vous savez, quand on est obsédé par un auteur, et c'est comme résoudre une énigme. Et d'autre part, ça m'a redonné envie, fatalement, de les retraduire, puisque cette compréhension nouvelle du recueil provoquait censément une nouvelle façon de voir chaque poème. Et donc voilà pourquoi ce petit livre est né l'an dernier et qu'on a dû attendre pour éviter les éventuels ennuis avec le petit-fils, on a attendu qu'il soit dans le fameux domaine public.
Oui, je voulais justement revenir à Musique de chambre, la première poésie. Alors je vais la lire, ou peut-être tu veux lire.
Vas-y, lis. Parce que,
non, comme mais toi, tu lis. Pierre,
c'est en français.
Oui. Tant qu'à faire.
Celui qui a perdu la gloire n'a pas trouvé d'âme pour le suivre. Parmi ses ennemis, son mépris, sa colère, préservant l'antique fierté, dans sa haute solitude, son amour est son compagnon.
Bien, c'est la question que je voulais te poser à partir de ce premier poème, et ça m'a été suggéré par Toby, donc qui est les deux autres mains, si je puis dire, qui a traduit la musique de chambre. Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout Léopold Bloom, tout Ulysse dans ce premier poème? Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte plutôt, la matrice?
Plutôt Stéphane Dédalus.
Oui, mais justement, avec la consubst... Aide-moi. Merci.
Oui, de toute façon...
Il y a tout Joyce, en tout cas, dans ces mots forts. Et alors, ça m'amène à te poser une autre question, mais par rapport à d'autres choses que tu as écrites. Tu as écrit un texte qui s'intitule « Manifeste ». Que tu avais plus ou moins oublié, m'as-tu dit. Ça arrive, c'est comme Joyce avec ses poèmes. Et à un moment, tu cites Charles Olson, qui est un des poètes que tu as édité et publié. Et Charles Olson disait « L'écriture du récit aujourd'hui est entièrement dépendante de l'avancée de la poésie. » Et un peu plus loin dans Manifeste, donc ce manifeste que tu as écrit, tu écris à la première personne, je poursuivrai en disant que ces avancées de la prose, possibles par l'avancée de la poésie, doit rendre possible de nouvelles avancées de la poésie. Enfin, je veux dire quoi ? C'est qu'en fond, en fait, quand on lit l'Odyssée, un grand critique italien que j'aime beaucoup, qui s'appelait Giacomo de Benedetti, avait dit que l'Odyssée, c'était le premier roman du monde occidental. Voilà. Eh bien, quand je lis Ulysse, j'ai l'impression que c'est un merveilleux poème, que c'est une œuvre de poésie. Et il m'est arrivé l'autre jour sur YouTube d'entendre, j'allais dire Ulysse, d'entendre James Joyce, la voix de James Joyce, qui lit des passages d'Ulysse.
De Finnegan's Wake.
Ah, c'est de Finnegan's Wake, oui, lapsus. Enfin, bon, ma démonstration vaut la même chose, je pense. Et en fait, c'est vraiment de la poésie. Et alors, je voulais connaître, t'entendre parler éventuellement de rapport de toi, poète, par rapport à ce roman que tu aimes par-dessus tout, à cet auteur que tu aimes par-dessus tout, et le rapport, justement, de la poésie au roman et de ce que de cette alchimie qu'un créateur comme toi peut sur laquelle tu peux travailler, disons.
Mais là où c'est que le fait que ma discipline littéraire soit pas le roman, ça a peut-être aidé à ce que j'allais dire, je ne souffre pas de Joyce, que j'ai l'impression qu'il y a presque des gens qui souffrent de Joyce. Parce qu'on a dit que c'était soit l'aboutissement du roman, donc après lui, il n'y aurait plus de roman possible, soit on a dit que c'était par rapport à Finnegan's Wake, que c'était une impasse. Enfin, ça peut être problématique pour les prosateurs. Il est vrai.
C'est obligation. On va faire des questions, parce que 7h30, il n'y a plus personne dans la salle.
Oui, c'est...
Mais... Non.
Non, je pense que c'est l'encas avant le théâtre.
C'est l'entracte. Oui, c'est ça, il doit y avoir... Peut-être qu'ils vont voir le spectacle, je ne sais pas.
Oui, donc, juste pour te répondre sur cet aspect-là, effectivement, le fait que ma pratique... et mes lectures soient davantage poétiques, quoique j'ai lu énormément de romans, c'est pas la... mais soient focalisées sur la poésie, crée un rapport particulier avec Joyce, à la fois sur le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne me complexe pas, il ne me pose pas de problème, et qu'au contraire, même, c'est pour moi une mine inouïe. C'est pour ça que j'ai cité cette chose d'Olson. Olson disait que la poésie, donc c'était nourri de... la prose s'était nourrie de la poésie, des apports de la poésie. Il pensait notamment à Flaubert par rapport à Mallarmé, enfin, etc., etc., que la pratique poétique avait permis au roman de faire une sorte de bond en avant historique et de trouver même sa modernité ou une nouvelle forme de modernité. Et moi, effectivement, je prolongeais cette phrase d'Olson en disant renversons la chose, puisqu'on dit que le roman est dans une impasse, effectivement, et il est... C'est vrai qu'on peut pas dire que de façon, il y a un renouvellement en tout cas du roman depuis Joyce. Ça semble effectivement, ne serait-ce que formellement, assez indépassable. Je prenais ça à mon propre compte parce que voilà, quand on est auteur, il faut embrasser la littérature sans complexe, en disant et est-ce que justement les grands romans ne vont pas être une sorte de réservoir possible pour les poètes à venir, puisque moi ce qui me préoccupe davantage dans ma pratique poétique, c'est effectivement un rapport à la narration et à la fiction. Donc, ma poésie est narrative. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Merci. Et merci à Philippe.